primaire, les rouges-gorges. Les pies, les merles, les rouges-gorges et les pigeons m'ont volé mon cœur morcelé vers l'horizon. Ont avalé ma mie de pain de peine. Les cris et les larmes, les sanglots longs et les regrets m'ont fait toucher l'âme.
Je ne sais même pas à qui est cette jolie voix, mais je lui coupe le son parce que j'ai un assez long texte d'Aminata Traoré à vous lire, une lettre qu'elle envoie à un de ses collègues qui est sénégalais. Et cette lettre est terrible. Ça fait partie d'un livre aussi terrible qui s'appelle « La gloire des imposteurs ». Donc Aminata Dramane Traoré et Boubacar Boris Diop, deux militants de la vraie démocratie. Et il faut savoir ce qu'ils nous disent. Tellement je cherche quelqu'un qui puisse me donner la main pour lire les lettres de Boubacar Boris Diop et moi je continuerai de faire Aminata. Parce que si c'est toujours moi qui lis, vous allez tous vous endormir, évidemment. Mais là, je n'ai pas le choix, je suis toute seule. Et je ne sais même pas si je vais arriver à vous lire toute cette lettre, qui a quand même une douzaine de pages. Mais ce que j'y ai lu dans l'autobus m'a complètement bouleversée. Et puis, je crois aussi que ça fait une synthèse, ça fait le point sur la situation du Mali, sur... en particulier l'intervention française au Mali. Ça met les pendules à l'heure. Alors l'intervention de Hollande était en septembre 2012 et la lettre de Aminata à Boris Diop date du 29 septembre 2012. Mon cher Boris, Paris vient de déposer au Conseil de sécurité une résolution en appui, prétend-il, à la demande du président par intérim, Diokoundo Traoré, d'une intervention militaire au nord. Je me suis souvenu tout à l'heure, en apprenant la nouvelle au journal télévisé, de la phrase de Mitterrand au temps de Bush, père, juste avant la première guerre du Golfe. « Maintenant, les armes vont parler. » Aujourd'hui, nous, Maliens, pouvons la reprendre en cœur, mais pas à la manière quasi jubilatoire de l'ancien chef de l'État français, que l'on sentait ravi de pouvoir donner une leçon à Saddam Hussein. Nous savons, au contraire, que c'est à nous de nous attendre au pire. La tension monte, et assez bizarrement, les rares personnes qui en parlent, ici à Bamako, se contentent de poser des questions ou de plaisanter sur le sujet. Sans doute pour exorciser leur angoisse. Comme dit le proverbe, quand les éléphants se battent, c'est surtout l'herbe qui souffre. Des individus sans visage vont faire de notre pays un théâtre d'opérations militaires. Nous allons devoir subir la peur au ventre, leur violence physique ou mentale. Car tous veulent décider de notre destin sans se soucier de notre avis. Le déploiement prévu ne sera africain que de nom, puisqu'il a été conçu pour servir les intérêts de la France dans le Sahel par le biais d'États totalement soumis à sa volonté. Dans mes moments d'abattement de plus en plus fréquents, je me surprends à me demander ce qui empêche nos leaders de se rebeller, même un peu, contre ceux qui exigent d'eux qu'ils précipitent leur pays dans l'abîme. Je me dis aussi parfois que leurs homologues occidentaux doivent secrètement s'étonner de ne jamais rencontrer aucune velléité de résistance de leur part. Le pire se prépare donc, et le plus dur, c'est de voir certains Maliens piaffait d'impatience et criait sur tous les toits que cette guerre, absolument nécessaire, tarde hélas à éclater. « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs !» m'a lancé à la figure un de nos diplomates avec qui je discutais des dégâts potentiels d'une intervention armée dans les régions occupées du Nord. Le plus drôle, ou peut-être le plus triste, c'est que notre va-t-en-guerre m'avait présenté quelques minutes plus tôt son fils, en me disant avec fierté qu'il était étudiant dans une université étrangère, là où lui-même était en poste. Le contraste était vraiment frappant, mais j'ai été tellement interloquée que je n'ai pas eu la force de lui demander s'il pensait que les jeunes soldats qui allaient devoir affronter Acmi, en Sardine et le Mujao n'avaient pas le même droit que son brillant rejeton à une bonne éducation. S'il pensait sérieusement que ce sont juste des œufs à casser pour je ne sais quelle sanglante omelette. J'avais aussi envie de lui parler d'une chose que vous, les hommes, souvent traumatisés par votre virilité, n'osez jamais avouer, et qui s'appelle la peur de mourir. De rien d'autre, juste de cette peur de mourir propre aux êtres de chair et de sang, et que j'ai souvent lu ces temps-ci dans les regards de jeunes soldats de retour du front. Je crois que si je n'avais pas parlé à tant d'entre eux ces dernières semaines, je ne haïrais pas si fort de toute mon âme les bruits de bottes que l'on continue d'entendre partout. Ce que j'en ai retenu, ce sont les syllabes d'une ville que les étrangers vont devoir apprendre à prononcer. Agelok. On n'en a pas beaucoup parlé en France. Il est des lieux qui donnent à jamais leur nom aux souffrances extrêmes d'un peuple. Guernica, Srebrenica, Sabra et Shatila. Pour nous, l'horreur s'appellera pour toujours Agelok. Tu en as parlé, mais tu ne sais sûrement pas que les soldats rescapés de cette boucherie entrimballent les images dans leur tête et dans leur téléphone portable. Car ils ont pris en secret des photos du massacre pour que leurs camarades ne meurent pas une seconde fois. J'ai vu un de ces films et depuis il me hante. Il faut que je te raconte en détail comment c'est arrivé. L'autre jour, un jeune militaire à l'air timide débarque chez moi et me demande si je me souviens de lui. Son visage ne me dit rien. Il s'y attendait visiblement, car il me rappelle aussitôt qu'il y a quelques années, il a été mon jardinier quelquefois. Nous parlons de tout et de rien, je sais qu'il a quelque chose à me dire. En effet, dès que j'évoque la guerre, il me lance qu'il était à Agelok. « Vous avez failli ne pas me revoir, » déclare-t-il. Je sens qu'il est si surpris d'être encore vivant qu'il répète cette phrase à qui veut l'entendre. En fait, l'homme ne se contente pas de paroles car il brandit un téléphone portable, me demande si je veux savoir comment ses camarades ont été exécutés et sans même attendre ma réponse, me le met sous le nez. Je prends l'appareil, non sans hésitation, car je suis partagée entre la peur de savoir et l'envie de savoir. Ce qui défile sous mes yeux est affreux et inoubliable. Le meurtre de sang-froid du capitaine Traoré, poursuivi par des hommes enturbannés à bord d'un pick-up. Ce sont des images épouvantables, Boris. On le voit s'arrêter, hagard, à bout de souffle, face à un autre véhicule qui lui barre la route. Les secondes qui suivent sont insoutenables. Celui que les combattants d'Agelok considèrent comme leur héros est abattu. Au son de je ne sais quelle musique, triomphale. Sans doute parce que dans l'esprit de ces bourreaux, la guerre, quand elle est si facile, est comme un simple jeu vidéo. Et nous, si loin du Nord, que faisons-nous, d'Agelok? Ce serait trop facile de se débarrasser des suppliciés en disant qu'ils sont tombés au champ d'honneur. C'est vrai, certes, mais ils sont aussi et peut-être surtout des naufragés de la vie. Ils ont payé au prix fort les errements de politiciens indignes et à la fortune douteuse. Certaines réalités font mal. Nous préférons faire semblant d'ignorer que dans cette histoire, les damnés de la Terre sont toujours en première ligne parce que l'armée leur assure au moins de quoi entretenir leur famille. Ce qui est clair, c'est qu'une guerre comme celle-ci souligne de manière insupportable les disparités sociales. Plus on est pauvre, plus on est exposé aux balles de l'ennemi. Il y a cependant d'autres raisons de haïr la guerre. Sans elle, les marchands d'armes en seraient réduits à crier famine, les malheureux. Et les ONG privées d'une nouvelle occasion d'exhiber leur bonté d'âme sur le sol africain. D'ailleurs, le dispositif de la bienfaisance ostentatoire est déjà en train de se mettre en place au Mali et j'ai entendu sur une radio un spécialiste préconiser l'accroissement des moyens du Haut Commissariat aux réfugiés et de l'UNICEF. Certains ont même affirmé, en évoquant le précédent albanais, que l'afflux massif de réfugiés va booster l'économie des pays voisins. D'être comme assiégé par tous ces délires fait voguer ce soir mon esprit vers les souffrances de Mahiné. Mahiné, une malienne ordinaire, morte à l'hôpital faute de soins. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Et pour se protéger, notre cœur se durcit et finalement on s'en remet à Dieu. On prie pour les victimes et la vie continue. Mais Mahiné, elle, son fantôme ne me lâche pas. Je l'ai beaucoup pleurée, car j'ai toujours vu en elle une femme hors norme, sans diplôme, mais riche d'une longue expérience de travail de proximité dans le quartier et en commune. Elle prenait la parole en public avec un cran formidable, d'une énergie et d'une bonne humeur contagieuse. Elle pouvait, en un rien de temps, mobiliser des centaines de personnes. Elle assénait ses vérités avec force et fustigeait les incohérences de la décentralisation, mais surtout le cancer de la corruption. Ce dernier mot n'avait rien d'abstrait pour elle et pour ses auditeurs, tous des femmes et des hommes du peuple. Mahiné leur parlait des micmacs dans l'attribution des parcelles de terrain et de l'impunité des élus. Et cela sonnait plus vrai et juste que 1000 rapports d'experts. Elle s'en est allée, en mon absence, victime des inégalités qu'elle dénonçait, morte des suites mal gérées, d'une poussée subite de tension artérielle. N'ayant pas réussi à lui trouver une place au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, ses parents l'ont emmenée à l'hôpital Le Luxembourg, où une ordonnance lui a été délivrée. Le père de son enfant, dont elle est divorcée, a fait face aux premières dépenses, mais pour le scanner, il fallait payer quelque 60 000 francs CFA. Et là, si mes données sont à jour, c'est terrible, 60 000 francs CFA, c'est équivalent à 100 euros. On meurt au Mali pour 100 euros. Dans notre pays, c'est beaucoup d'argent. Et on s'est mis à ma recherche. Je me trouvais malheureusement à l'étranger et n'étais pas au courant de ces tristes événements. Les proches de Mahiné ont donc sollicité d'autres membres de notre mouvement. Sans succès. Il restait la mairie où Mahiné était connue et appréciée pour y avoir participé à de nombreuses réunions. Elle a rendu l'âme avant que ne puisse être constitué son dossier de prise en charge pour indigence. J'ai appris, par la suite, que la première réaction de certains employés municipaux avait été de s'étonner que moi, Aminata Dramane Traoré, je ne fasse rien en ces heures difficiles pour aider Mahiné. C'était quelque chose du genre « Elle a une grande bouche, mais ça s'arrête là. Tous pareils, ces intellectuels. » Ils s'imaginaient peut-être pouvoir semer ainsi la zizanie entre la famille de Mahiné et moi-même. C'était peine perdue, car l'exceptionnelle qualité de mes relations avec Mahiné était connue de tous. Mais je dois avouer, au-delà de cet acte de malveillance, somme toute assez banal, un certain malaise dont je vais t'entretenir. Sais-tu, Boris, que chaque personne de mon entourage en difficulté peut s'entendre dire qu'elle joue la comédie parce qu'ayant moi-même une fortune colossale, je dois pouvoir lui venir en aide. Dans l'imaginaire populaire, les signes extérieurs qui me situent parmi les « en haut de en haut », comme disent nos frères ivoiriens, sont mes passages dans les médias et mes fréquents voyages en avion. Cela ne me gêne pas outre mesure que l'on me croit plus riche que je ne suis. Ce qui me dérange, en revanche, et c'est pour ça que je t'en parle, c'est que pour la plupart des gens, mes supposés millions viendraient surtout des financements que j'ai reçus pour mener les travaux d'assainissement et de transformation dans notre quartier. Ce n'est même pas par méchanceté que l'on pense ainsi. Non, c'est juste parce que l'on estime qu'il est bien normal de garder pour soi une partie de l'argent des Blancs, après avoir planté des arbres et pavé des rues. Après Mahini, d'autres femmes nous ont quittées, dans des circonstances quasi similaires. Je pense à Siranto, l'une des plus belles voix des mille et une maliennes debout, morte en couche après avoir été baladée, elle aussi, d'un centre hospitalier à un autre. Lorsque la guerre vient se greffer sur le désastre économique, cela ne peut donner de fruits bien appétissants. Et personne ne peut se prétendre à l'abri du malheur. Moi qui te parle, je suis confrontée quotidiennement aux épreuves que traversent les travailleurs du Santoro, un centre qui a été créé par Aminata. La situation est si compliquée qu'il a fallu en mettre quelques-uns au chômage technique. J'ai dû m'y résoudre, la mort dans l'âme. Après m'être endettée des mois durant pour payer leur salaire quoi qu'il advienne. J'en suis malade parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui font désormais partie de ma famille et de mon histoire personnelle. Certains d'entre eux ont donné mon nom à leur fille et partagé avec moi heures et malheurs. Je ne sais comment ils font pour s'acquitter de leur loyer, souvent modique, mais lourd pour eux, pour s'acquitter des ordonnances et des frais de scolarité des enfants. Même ceux qui ont gardé leur emploi ont du mal à se tirer d'affaires. C'est le cas de Laïa, que j'ai réussi à maintenir à son poste. Il est venu me tendre hier, vers 10 heures du matin, une ordonnance. Laïa est quelqu'un de droit et très scrupuleux. S'il avait pu éviter une telle démarche, il n'aurait pas hésité. Mais il n'avait pas le choix. J'avais moi-même insisté pour qu'il conduise son fils à l'hôpital au lieu de lui donner ces produits bon marché mais dangereux, provenant de ce qu'on appelle ici les pharmacies par terre. En examinant sa longue liste de médicaments, je me suis aperçue que 3 d'entre eux avaient les mêmes propriétés. Si j'ai tenu à vérifier, c'est que j'ai eu vent des pratiques de certains infirmiers indélicats, déterminés à se faire un peu d'argent sur le dos des patients. Rien d'étonnant à cela, puisque selon un proverbe camerounais, la chèvre broute là où elle est attachée. Chacun trafique donc dans son domaine de compétences, sur les frais de scolarité ou les notes d'examen, sur les routes nationales ou aux frontières. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ce que j'entends de la bouche des femmes de notre groupe. La petite corruption a ceci de terrible, qu'elle met en conflit les couches les plus fragiles de la société et réduit à néant leurs efforts pour sortir du trou. Le chauffeur de taxi, par exemple, rentre à la maison le soir après une journée de galère avec au moins sa modeste recette, de quoi laisser à la maison avant de reprendre le volant le lendemain. Seulement voilà, le flic qui règle la circulation l'intercepte sur le chemin de son domicile car il a lui aussi des problèmes. On devine la suite. Une nuit, j'ai vu un taximan hurler comme un forcené, ameutant la foule, jurant qu'il ne donnerait pas un centime au policier qui avait pris son permis de conduire. Si telles sont les réalités à Bamako, imagine ce que ça doit être à Kayes, Sikasso, Gao ou Kidal. Je n'ose même pas évoquer la situation en milieu rural. Voilà, mon cher ami. C'est une chose de parler politique dans les conférences internationales, c'en est une autre, d'être au contact des vies qu'elle peut briser. La vie des petites gens, comme les appelait avec tendresse Djibril Diop Mambéty, qui leur a consacré une belle série de films. Depuis la fin de l'année dernière, c'est chez nous qu'elle est devenue folle, la politique. Puisque l'Afghanistan est devenu la mesure de tous les chaos, on parle désormais de Malistan. Certains préfèrent toutefois Somalistan, et d'autres penchent pour Sahelistan. Les Maliens ne s'y trompent cependant pas. Tous ces mots épouvantails expriment la même volonté d'isoler et d'écraser le terrorisme dans le sang de notre peuple. Voilà ce qu'écrivait, il y a quelques jours, Vincent Hugues de l'Express, à propos de notre probable entrée en guerre. Après des semaines d'atermoiements et de parodies, reflet des dissensions au sommet de l'exécutif légal de Bamako, le président intérimaire Diokounda Traoré et son premier ministre Cheikh Modibo Diarra ont officiellement sollicité, dans une lettre adressée à M. Ban Ki-moon, l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'intervention immédiate d'une force militaire internationale appelée à aider l'armée malienne à reconquérir les régions du nord occupées. La seule info contenue dans ce long passage, c'est que, pour te le dire en termes familiers, ça va saigner. Depuis la chute du mur de Berlin en novembre 89 et les attentats du 11 septembre, le redoutable pouvoir de façonner le monde est concentré entre les mains d'une poignée de pays et d'organisations comme la France, l'Union européenne et le G8 devenu G20 en concédant quelques strapontins aux pays émergents. Ce système a un bras armé, l'OTAN. Les nouveaux maîtres de l'univers agissent à visage découvert après avoir obtenu du Conseil de sécurité une sorte de permis de tuer. Pour le reste, il ne leur est guère difficile de prendre appui sur des organisations sous-régionales comme la CDAO pour légitimer politiquement et moralement leur action. La CDAO, on sait bien que c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout cela est bien connu, mais on prête de nos jours moins attention à une chose bien plus grave, le détournement des mandats dont se rendent de plus en plus coupables en toute impunité les puissances occidentales. Elles ont, par exemple, purement et simplement violé la résolution 1973 du Conseil de sécurité sur la Libye. Seul l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki s'est indigné de ce scandale, allant jusqu'à mettre nommément en cause Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David Cameron. Il a également fustigé les Nations Unies pour avoir cautionné l'inacceptable. Ces mots très forts méritent d'être rapportés intégralement. Les voici. Les organes concernés de l'ONU, le Conseil de sécurité et le bureau du secrétaire général ont trahi leurs obligations en termes de droit international, en particulier celles prescrites par la charte de l'ONU. Ils ont permis aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni de décider exclusivement de l'avenir de la Libye. La 67e Assemblée générale des Nations unies aurait dû mettre cette véritable forfaiture au cœur de ses débats. Elle n'a pas osé le faire, pour des raisons que chacun peut imaginer. Pour disposer d'une aussi grande marge de manœuvre, l'Occident a besoin de dirigeants à sa solde, pas de leaders indociles capables de lui tenir tête. Résister, il n'en est plus question. Que reste-t-il ? Des sacrifices des pères fondateurs, héroïques combattants de la liberté. Pas grand-chose, assurément. Pourtant, ces visionnaires ont très tôt compris que la souveraineté politique est préalable à tout développement. Que vaut l'indépendance si l'on est privé du simple pouvoir de battre monnaie ou de transformer ses propres matières premières ? L'Afrique est plus que jamais orpheline de ses dirigeants impitoyablement éliminés pour avoir voulu mettre leur pays sur cette route-là, celle de l'autonomie et de l'autosuffisance. Depuis le début, depuis le temps du général de Gaulle, la France-Afrique est une abominable histoire de coups d'État, d'assassinats politiques et de pillage des richesses de tout un continent. J'ai vu plusieurs fois le documentaire de Nicolas Benke sur la France-Afrique. Il est sur Internet. Nous vous avons souvent recommandé ce film avec Baptiste quand on travaillait ensemble sur notre chère Afrique. J'ai vu plusieurs fois le documentaire de Nicolas Benke sur la France-Afrique et je m'arrête toujours sur cette séquence où un vieil homme explique tranquillement qu'il a été chargé par les services de Jacques Foccart d'inonder littéralement la Guinée de faux billets de 6 lis, la monnaie que venait de créer Sékou Touré. On connaît le résultat de cette opération. Tu sais très bien de quoi je parle puisque tu as écrit « Négrophobie » avec Odile Taubner et François-Xavier Verschave. J'aimerais juste, Boris, que ceux qui examinent, que ceux qui estiment que nous critiquons trop souvent ou trop facilement les Occidentaux, m'expliquent pourquoi, même aujourd'hui, nous devrions passer sous silence de tels agissements qui ont pesé si négativement sur nos destinées. Encore, Sékou Touré avait-il réussi à prendre le pouvoir en Guinée, comme plus tard au Burkina, Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Beaucoup d'autres ont à peine commencé à émerger qu'on les a liquidés. Le meilleur exemple des espérances trahies, c'est bien sûr le Congo. Dans les années 60, il est à la croisée des chemins et peut aller à l'indépendance avec Lumumba ou avec Mobutu. C'est le second qui triomphe de la manière ignoble que tu sais, assassinant Lumumba avec l'appui de la Belgique et de la CIA, pour faire du riche et immense Congo le pays le plus faible et le moins respecté d'Afrique. Tu l'as sans doute remarqué, je n'ai pas mentionné Modibo Keïta. Je l'ai fait à dessein. Nous reparlerons à Canal Sud de Modibo Keïta. Le message de ce géant de notre histoire, déstabilisé et assassiné, n'a jamais été aussi vivace. Lors de l'insurrection populaire de 1991, il a servi de source d'inspiration à bien des manifestants. Il le demeure, pour la plupart d'entre nous, à l'heure de l'humiliation et des renoncements. Nous avons le sentiment de n'être ni représentés, ni écoutés, ni respectés. Autour de moi, des questions inhabituelles fusent. « Qui dresse la CEDEAO contre nous ?» me demande par exemple un voisin qui ajoute, sans même attendre ma réponse, « C'est vous, les gens instruits, qui devez nous aider à comprendre pourquoi on nous hait tant. » Je lui dis honnêtement que je me sens aussi perdue que lui et il sourit quand je lui explique qu'il y a une grande différence entre ce qui est écrit dans les livres et ce que font nos dirigeants. Que le simple fait d'être allé à l'école ne nous permet pas d'avoir la réponse à tout. De la manière dont Diakounda Traoré a été maintenu au pouvoir, a découlé tout le reste. L'agression dans son palais, où il a été gravement blessé, et les cafouillages à propos de l'option militaire. Personne n'est dupe. Et si très vite il a été perçu par ses concitoyens comme l'homme des étrangers, c'est parce que nous avons tous vu et compris que les résolutions ne se concoctaient au niveau de la France et de la CEDEAO, et aussi qu'elles passaient comme lettres à la poste au Conseil de sécurité. Il leur fallait légitimer celui à qui des instructions seraient dictées, en particulier celles relatives à la guerre. Tout s'est passé par-dessus sa tête, il n'est même pas allé à New York pour sauver les apparences, et personne n'a été dupe, en lisant dans le journal que le président par intérim, Diakounda Traoré, et le premier ministre Cheikh Modibo Diarra avaient dû se rendre à l'évidence et demander à Ban Ki-moon l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution autorisant l'intervention immédiate d'une force militaire internationale appelée à aider l'armée malienne à reconquérir les régions du Nord occupées. Traoré, le politicien à l'origine de cette requête du 24 septembre 2012, avait pourtant averti en son temps. « J'ai conscience d'être le président d'un pays en guerre. Mais le premier choix est le dialogue et la négociation. Le deuxième, le dialogue et la négociation. Et le troisième choix demeure le dialogue et la négociation. Nous ferons la guerre si nous n'avons pas d'autre choix. » et il avait conclu en appelant dans cette dernière perspective à l'union sacrée autour de l'armée. À la décharge du président par intérim, je dirais qu'il n'a pas eu le choix. Le chantage financier a eu l'effet escompté. Totalement asphyxié, le Mali, par sa voix, s'est vu obligé d'accorder à ses bourreaux le vernis de légitimité auquel il tenait tant. Licorne et l'ONUCI en Côte d'Ivoire, l'OTAN en Libye et à présent la CEDEAO au Mali. Alors que nous n'avons pas fini de gérer les conséquences dramatiques des deux guerres du quinquennat de Nicolas Sarkozy, faut-il ajouter à nos malheurs? J'ai beau tourner et retourner la question dans ma tête, la réponse reste la même. Une solution pacifique était envisageable. L'économie souterraine, drogue, trafic d'armes et de migrants, et les rébellions, insurrections et mutineries produisent des logiques de haine dont il est essentiel de se démarquer. Au lieu de cela, il m'est arrivé d'entendre les propos que voici. « Matons-les tous, même s'il y a des Maliens parmi eux. Tant pis pour ceux qui n'ont pas su clairement choisir leur camp. » Mon cher Boris, je crois qu'il faut être fou pour s'exprimer de la sorte, mais cette folie est à la mesure d'une guerre qui n'est pas vraiment la nôtre et qui est surtout troublante par ses zones obscures et ses non-dits. Une guerre contre un ennemi si furtif qu'il en devient invisible. Heureusement qu'en Europe même, des esprits lucides prennent la mesure des dangers qui nous guettent tous. Je me souviens d'une jeune élue socialiste lâchant après une conférence sur le Mali. Tout ça risque de finir mal pour tout le monde. Invité par Brigitte Maître, Hubert Godon et d'autres militants d'attaque du monde diplomatique et du Parti socialiste, à Mâcon, à Lyon, à Dijon, à Chalon-sur-Saône, je me suis efforcée de mettre en exergue la convergence d'intérêts entre les peuples français et maliens. En écrivant ces lignes, je me souviens que l'on m'a demandé plusieurs fois si j'avais eu l'occasion de m'ouvrir de ces idées de vive voix à François Hollande. Au début, la question me laissait un peu perplexe, puis j'ai fini par en percer le sens. Elle signifiait en gros « c'est un homme de gauche, un homme de bonne volonté ». Il doit pouvoir entendre ce que tu as à lui dire. Eh bien, si j'ai pu avoir un jour cette illusion, j'en suis complètement revenue. Il m'a suffi d'écouter son discours d'investiture pour sentir toute l'arrogance de celui qui se prétend capable de régler les problèmes de son pays, du mien et même de l'Afrique tout entière. Et aux Nations Unies, s'exprimant en lieu et place de Diokounda Traoré, il a parlé du Mali comme d'un pays sous tutelle où il allait organiser les élections. Comment ne serions-nous pas remontés contre la CEDEAO qui, via Ouattara et Compaoré, obéit au doigt et à l'œil à Hollande? Le gouvernement d'union nationale qu'elle nous a imposé ne peut rien faire car il est totalement dépourvu de moyens. Mais le pire, comme je l'ai déjà fait remarquer, c'est que notre peuple n'a rien à dire sur son propre avenir. Pour cela, il aurait fallu des citoyens éduqués et informés, en somme un électorat avisé, exigeant et véritablement citoyen. L'Afrique subit, depuis plus de 30 années, les conséquences du surendettement et de la médecine de cheval des programmes du FMI et de la Banque mondiale. 30 années de trahison et de mensonges ont fini par miner notre confiance en nos dirigeants, incapables de dire non aux institutions financières internationales dans un sursaut d'orgueil et de lucidité. N'est-on pas malgré tout en droit d'espérer d'autres relations faites de respect mutuel entre l'Afrique et la France? Le fait est que s'il est un domaine où les clivages idéologiques s'estompent comme par miracle en France, c'est bien celui de la politique africaine de Paris. Et ça, c'est une véritable honte pour la gauche. Bon, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai mordu de quelques minutes. Vous retrouverez l'émission sur la la Bretagne que j'ai appelée la Blanche Hermine. Vous la retrouverez avec cette lecture d'Aminata Traoré. Vous retrouverez ça sur la page de Chroniqueurs contre Histoire. La partie bretonne est déjà en ligne depuis cette nuit. Mais je vais y ajouter Aminata Traoré. On reprendra la lecture de ce livre terrible bientôt, parce que septembre, octobre sont des mois terribles pour l'Afrique historiquement. Comme on l'a cité, on rappelle l'assassinat de Sankara le 15 octobre 87. Et ça va faire un sacré anniversaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre patience et de votre indulgence pour mes cafouillages sur cette table de mixage qui me fait toujours peur. À la semaine prochaine, merci de votre écoute.